Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui. Samedi, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis, on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Les auditeurs du TIS, voici les journaux aujourd'hui. En titre, le président a confirmé que l'islam radical n'était pas l'islam en Indonésie. 50 ans d'ASEAN, beaucoup de progrès ont été réalisés. Voici le bulletin complet. Le président Joko Widodo a confirmé que l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lors de la réunion nationale des ulémas à Jakarta jeudi. Le président a déclaré qu'actuellement, la nation indonésienne est un modèle pour d'autres nations dans le monde grâce à son succès dans la question de la pluralité. Selon le président, sa fierté est le résultat de conseils enseignés par des ulémas dans l'enseignement de l'islam qui fournit la bénédiction pour l'univers au Rahmatan lil Alamin. En outre, selon le président, les ulémas ont également réussi à l'enseigner aux musulmans afin que le conseil puisse être mis en œuvre dans la vie de la nation et de l'État. Le président Joko Widodo a également mentionné que les conseils des ulémas ont également réussi à réaliser un islam modéré et poli, pas un islam radical, parce que selon le président, l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai.
La direction des ulémas nous a amené à vivre en pays et à s'unir dans la diversité des conseils pour la réalisation d'un islam modéré, pas un islam difficile, pas un islam radical. L'islam radical n'est pas l'islam du conseil indonésien d'ulémas. L'islam radical n'est pas l'islam de l'Indonésie.
Islam yang radikal bukan islamnya bangsa Indonesia.
En outre, le président Joko Widodo a également déclaré que Pancasila comme l'idéologie de la nation indonésienne ne pouvait pas être contestée et ne peut pas être séparée de l'islam. Ceci est montré dans le premier principe de Pancasila qui reconnaît et respecte les valeurs divines et pleines de valeurs religieuses. À cette occasion, le président a également invité tous les musulmans à revenir à l'esprit de la coopération dans tous les aspects de la vie afin de réaliser une Indonésie souveraine, juste et prospère. Le ministère des Affaires étrangères a organisé un colloque de 50 ans de l'ASEAN avec le thème « La centralité et l'unité de l'ASEAN » au ministère des Affaires étrangères le 13 et 14 juillet 2017. Cet événement se concentre sur la discussion des questions récentes sur la base des trois piliers de l'ASEAN, à savoir la politique et la sécurité, l'économie et social-culturel. Le colloque pourrait devenir un moyen d'échanger des idées et des points de vue sur les progrès et les réalisations de l'ASEAN à l'avenir en impliquant diverses parties prenantes du gouvernement, des hommes d'affaires et des universitaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Aïm Fahir, a déclaré aux médias à Jakarta récemment ce colloque était l'une des formes de la célébration des 50 ans de l'ASEAN. La commémoration des 50 ans de l'ASEAN n'est pas seulement marquée les yeux de l'âge, mais aussi la preuve de la contribution de l'ASEAN pour le pays et la stabilité dans la région. Au cours des 50 années de la fondation de l'ASEAN, il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans divers domaines.
Keberhasilan kita sejauh ini
notre succès en 50 ans peut être vu tant en termes de sécurité et de la stabilité, le progrès économique et en termes d'interaction plus étroite entre toutes les parties prenantes. Parce que dès le début, nous priorisons le dialogue, la solidarité par notre consensus et également l'inclusion. Sur la session du pilier économique, la discussion se concentre sur les progrès, les défis et la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN et les perspectives de coopération entre l'ASEAN, le partenariat compréhensif régional. Lors de la prochaine session, on a discuté des piliers socioculturels avec le thème l'identité de l'ASEAN, les travailleurs migrants, la société sans drogue et l'intégration du genre. Alors que dans la dernière session, à savoir les piliers politiques et de sécurité, on a discuté du plan de la sécurité régionale, la médecine méridionale et la sécurité maritime. Cette activité présente les hauts valeurs de 10 pays membres de l'ASEAN, les experts et les institutions de recherche, le secrétariat de l'ASEAN et l'Université de la Défense. Les résultats des activités seront rassemblés dans un livre qui sera présenté lors de la réunion ministérielle de l'ASEAN. Ainsi se commémorer les 50 ans de l'ASEAN à Manille, aux Philippines, en août 2017. Le président du Conseil indonésien des ulémas, Kiai Haji Ma'ruf Amin, récemment à Jakarta, a déclaré que le dialogue et le dhikr étaient des efforts qui peuvent être faits pour maintenir l'intégrité nationale. Dans son discours lors de la rencontre nationale des ulémas du groupe de dhikr, Hubul Waton, Ma'ruf Amin a déclaré que la nation indonésienne a été formée sur la base de l'accord de tous les citoyens pour promettre de maintenir l'unité de l'Indonésie. Selon lui, l'unité de la nation indonésienne est perturbée par l'existence des groupes radicaux qui veulent séparer l'Indonésie. Par conséquent, il a souligné l'importance du dialogue et du dhikr pour maintenir l'unité nationale.
Karena itu kita harus berusaha.
Par conséquent, nous devons nous efforcer d'unir la nation par des institutions que nous possédons, à savoir les institutions de l'État, les institutions sociales et les institutions religieuses. Le groupe de dhikr Hubul Waton est un lieu pour faire cet effort par deux choses. Tout d'abord, les dialogues nationaux et aussi par le dhikr ou les prières et la prière de masse. Kiai Haji Ma'ruf Amin a ajouté l'importance du rôle d'ulema dans le maintien de l'intégrité nationale. Selon lui, les ulémas ont une grande responsabilité non seulement pour garder la religion et la personne, mais aussi pour garder l'État et la nation. Par conséquent, selon lui, les ulémas devraient prendre l'initiative lorsque le pays éprouve la désintégrer. Il a également exprimé son admiration pour le premier président d'Indonésie Sukarno, qui a pu formuler Pancasila comme une forme unificatrice de la nation ou le milieu de pluralisme. Environ 700 ulémas du groupe de dhikr Hubul Waton ont assisté à la réunion nationale. Les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs illégaux qui sont entrés en Indonésie à travers des projets de construction d'investissements étrangers, ont été les vedettes. Cela est supposé de ne pas donner des bénéfices parce qu'il ferme les possibilités d'emploi pour les travailleurs locaux. Il a été dit par les chercheurs du Centre pour la recherche démographique de l'Institut indonésien des sciences ou l'IPI, défi à s'y atteler après la conférence de presse aux médias sur les travailleurs illégaux à Jakarta jeudi. Selon elle, il y a beaucoup de problèmes des travailleurs étrangers en Indonésie, à savoir la forte intensité de l'utilisation des travailleurs étrangers dans le projet d'investissement chinois. Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation significative des travailleurs chinois de 873 travailleurs en 2015 et de 4236 travailleurs en 2016. Défi à déclarer, même si le nombre exact de travailleurs chinois n'est pas clair, la détection des travailleurs illégaux chinois dans de nombreuses provinces comme en Java de l'Ouest et à l'Est de Java, à Kalimantan Central, au sud-est de Sulawesi et dans d'autres provinces, indique que l'existence de travail illégaux chinois s'est répandue dans de nombreuses provinces. Défi a demandé au gouvernement d'ajouter le nombre de superviseurs. Nous connaissons les bureaux de l'immigration, les ministères, la main-d'œuvre et la fin gardée pour surveiller les travailleurs étrangers en Indonésie. Le nombre et l'engagement du personnel de surveillance doivent être améliorés. Le manque de superviseurs est l'un des obstacles pour surveiller les travailleurs étrangers. Pendant ce temps, le chef de la sous-direction de la surveillance du ministère de la main-d'œuvre, Rihad Purba, a déclaré que le gouvernement continuera à surveiller l'existence de travailleurs étrangers en Indonésie. Si le gouvernement a détecté des travailleurs illégaux, le gouvernement les attrapera et les expulsera dans le pays. Le dernier, le président Joko Widodo a reçu le ministre de l'Économie, de l'Éducation et de la Recherche de la Suisse, Johan Schneider Amman, et le délégué au palais de Bogor vendredi. L'arrivée du ministre Johan en tant également l'ancien président de la Suisse et la déléguée a été accueillie par le président Joko Widodo. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung, après la réunion, a déclaré que l'arrivée du ministre Johan en Indonésie vise à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'enseignement professionnel. La Suisse est un pays très potentiel pour l'Indonésie. Ce qui est le plus évident est la coopération bilatérale en 3 ans a augmenté près de 283% et beaucoup d'entreprises suisses en Indonésie qui sont excellentes dans leur domaine. Il a dit lors d'une réunion avec le président, le ministre Johan offre à l'Indonésie pour le suivi de la coopération, en particulier dans le domaine de l'enseignement professionnel, les écoles polytechniques, etc. Pendant ce temps, le ministre de Coordination économique Darmina Sutton a ajouté que dans le domaine de la formation professionnelle, la Suisse et l'Allemagne sont les pays les plus avancés dans le monde. C'est sur l'été de 10, c'était notre journal aujourd'hui.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie. Thank you.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Média Indonesia le 13 juillet et en titre « Fermement et rapidement prendre des mesures contre les organisations communautaires ». Le gouvernement vraiment montre la fermeté face aux organisations communautaires anti-Pancasila et la Constitution 1945 en publiant un règlement du gouvernement en lieu et place du droit, soit PERPU, pour faire face aux organisations de masse divergées. PERPU numéro 2, l'an 2017, a été signé par le président Joko Widodo le 10 juillet. Ce règlement avait officiellement annoncé par le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, le 12 juillet. Le gouvernement a publié PERPU sur les organisations communautaires avec une variété de considérations pour la vie de la nation et de l'État conformément à Pancasila et la Constitution 1945. PERPU numéro 2 2017 est publié sur la base de l'urgence de régler la question de la loi contre les organisations de masse dans les problèmes actuels quand les instruments juridiques existants ne soutiennent pas l'achèvement rapidement. Si le gouvernement ne prend pas de mesures fermes, ils seront une menace pour Pancasila et la Constitution 1945 et le pays uni d'Indonésie. Selon ce quotidien, PERPU est publié pour maintenir la continuité de Pancasila, la Constitution 1945 et la République unitaire d'Indonésie. Ensuite, l'éditorial du journal Sindo, le 13 juillet, a pour titre « La subvention des prêts au logement coupée ». La taille de subvention des prêts au logement serait faite par le plan de la facilité de liquidité de financement du logement, FLPP. Le Parlement et le gouvernement se sont entendus sur la réduction des subventions hypothécaires contenues dans le budget de l'État amendement APBNP 2017. Le gouvernement a coupé FLPP 6,6 trillion rupiah d'être 3,1 trillion rupiah. Le gouvernement a offert deux raisons pour couper le budget FLPP, les conditions sur le terrain sur mesure d'attribution et le manque d'efficacité dans la réalisation du programme. Sur la base de l'évaluation du gouvernement, la réalisation de FLPP au cours de l'année n'est plus efficace. Le fonds de subvention coupé est transféré sur les projets stratégiques nationaux. Au lieu de cela, pour le programme de construction de logements à faible coût pour les personnes à faible revenu, le gouvernement permettra de maximiser la participation des banques autres que la banque BTN. En outre, la répartition de la marge d'intérêt bonifiée et l'aide de la compte sera maximisée. Pour les deux programmes, on a alloué un budget de 5,9 trillion pour 775 000 unités de logement. Outre de couper le plafond budgétaire de FLPP pour cette année, le gouvernement représenté par les ministres. Outre de couper le plafond budgétaire de FLPP pour cette année, le gouvernement représenté par le ministère des Travaux publics et du Logement public prépare des modifications aux limites des critères sur les personnes à faible revenu qui peuvent profiter de la subvention des prêts au logement de FLPP. Nous terminons avec l'éditorial du journal Republika le 14 juillet et en titre « Sérieux de lutter contre les drogues ». Chaque jour, plusieurs 30 enfants sont morts à cause de la drogue. Même jusqu'à présent, l'Indonésie n'a pas pu échapper à l'état d'urgence du médicament. Divers types de stupéfiants sont plus d'incitation à démolir l'Indonésie. Les courtiers et les trafiquants continuent de cibler les jeunes générations de cette nation d'être un esclave de la drogue. Le chef de l'Agence nationale des stupéfiants, BNN, le commissaire général Budi Waseso, a dit « Il y a 65 types de nouveaux médicaments qui inondent le marché indonésien. » L'Indonésie devient marché doux des syndicats internationaux de la drogue. Budi Waseso a dit « La drogue doit être combattue avec des actions concrètes. La peine de mort contre les trafiquants de drogue n'a pas fait la contrebande de stupéfiants dans ce pays réduit. En fait, dans la journée de lutte contre les stupéfiants internationaux, l'agent a réussi à contrecarrer la contrebande d'une tonne de stupéfiants à Anyer, district Serang, Banten. La peine de mort contre les trafiquants et les trafiquants de drogue doit être maintenue afin de maintenir ce pays la menace des drogues. Les policiers locaux impliqués dans le trafic de drogue devraient être tirés et mis à la prison. Selon ce quotidien, les enfants et les adolescents qui sont devenus toxicomanes devraient être remis en état. Les parents doivent accorder une grande attention à leurs enfants. Les familles devraient être le premier rempart contre le trafic de drogue illicite. La journée de lutte contre les stupéfiants 2017 devrait être une impulsion pour tous les éléments de plus grave de la nation dans la lutte contre le trafic de drogue et débarrasser le pays de l'état d'urgence de la drogue. Cher ami, c'était la revue de presse.
Ces auditeurs d'études en écho de quelques événements historiques importants de quelques pays de 15 juillet, entre autres 15 juillet 1916, l'établissement de Boeing, et 15 juillet 1946, la conférence de Malino. Voici l'histoire d'aujourd'hui complète. On commence 15 juillet 1916, l'établissement de Boeing. The Boeing Company est un fabricant d'appareils et l'aérospatial dont le siège est à Chicago, Illinois, avec son plus grand centre de production à Everett, Washington, près de Seattle, Washington. L'également entrepreneur de la défense est une composante de l'indice Dow Jones Industrial Average. Boeing a été fondé par William Edward Boeing, à l'origine, un homme d'affaires est un boucheron sourcé à faire son collègue George Conrad Westerfeld le 15 juillet 1916. Il a fondé l'usine d'avions et la compagnie qui s'appelait alors Pacific Aero Product. Des principales divisions de Boeing Integrated Defense System et Boeing ou IDS, responsable des produits militaires et spatiaux et avions, Boeing Commercial BCA est responsable pour les avions civils. On change le 15 juillet 1946, la conférence de Malino. Appelée la Seconde Guerre mondiale, l'Australie a remis l'Indonésie orientale aux Néerlandais en 15 juillet 1946. Ainsi, l'administration civile et des Indes orientales néerlandaises regagnaient la région orientale de l'Indonésie, jure et de facto. Puis, le Pays-Bas, qui est dirigé par le lieutenant-gouverneur général Van Mook, a organisé la conférence Malino, tenue le 15 juillet au 25 juillet 1946 à la ville de Malino, sur l'Ouest du Sud, pour discuter de l'aménagement du territoire. La conférence a réuni 39 personnes de 15 régions de Bornéo et le Grand Orient dans le but de discuter du plan d'établissement des États fédérations en Indonésie qui implique les régions en Indonésie orientale. La conférence a décidé que l'État devrait être une Indonésie fédérale plus tard, Avant de former l'État fédéral, il faut passer la transition. La période de transition de la souveraineté restait entre les mains des Pays-Bas, bien que les États fédéraux sont devenus indépendants, mais restaient en contact avec les Hollandais. Entre 1915 et 1958, les troupes américaines au secours de Chamoun. Face à une guerre civile larvée, le Liban voit débarquer à Beyrouth les marines américaines. Les États-Unis répondent ainsi à la demande du président maronite Kamil Khamoun, qui doit faire face à une insurrection de musulmans menée par Rachid Karami. La crise est née de la conjonction d'une crise politique intérieure et d'un climat international tendu depuis 2 ans. Chamoun est accusé par ses détracteurs d'avoir truqué les élections de 1957, détracteurs musulmans qui n'ont d'ailleurs pas apprécié la position occidentale de Beyrouth lors de la crise du canal de Suez en 1956. Ils applaudissent au contraire la République arabe unie qui intensifie les liens entre l'Égypte et la Syrie désormais bassistes. C'est d'ailleurs ce dernier point qui fait craindre aux États-Unis l'instabilité et qui motive leur intervention. Ce solitaire litige, c'était notre histoire d'aujourd'hui, ce soir, l'édition le 15 juillet. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Le Fonds monétaire international soutient l'Indonésie d'augmenter le ratio de l'impôt. Le gouvernement vise le ratio de l'impôt au produit intérieur brut, PIB, en 2019 de 16%. Ce chiffre augmente de manière significative avec le ratio cible de conformité fiscale cette année qui est seulement 11 à 12%. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, Mitsuhiro Furusawa, évalue les objectifs lancés par le ministre des Finances Sri Mulyani, qui étaient très ambitieux. Cependant, il a confirmé que son institution continuera à soutenir le gouvernement indonésien. Il existe diverses options et le FMI soutient les efforts de l'Indonésie, a déclaré Furusawa au sommet conjoint FMI Indonésie à l'hôtel Mulia Senayan, Jakarta, le mercredi 12 juillet. Qu'en être le conférencier clé dans cette conférence, la ministre des Finances Sri Mulyani a dit qu'elle ferait tout son possible pour suivre ses objectifs. Selon Sri Mulyani, avec l'équipe de la réforme fiscale qui a été mise en place, le gouvernement cherche à augmenter le taux d'imposition sans gréver l'économie. En ce qui concerne l'augmentation du ratio de l'impôt au PIB, Sri Mulyani continuera à mener une politique de réforme fiscale. La réforme a poursuivi grâce à l'amélioration des processus d'affaires, l'amélioration des systèmes d'information et de la technologie et l'extensification de l'impôt. De plus, les recettes fiscales seront également augmentées en renforçant l'engagement de l'Indonésie à mettre en œuvre la justice fiscale internationale. L'engagement, selon lui, a vu le jour depuis l'année dernière lorsque le gouvernement a lancé un programme d'amnistie fiscale afin d'élargir la base des données fiscales à la maison et à l'étranger. L'engagement est renforcé par la participation de l'Indonésie dans le système de transparence et d'échange d'informations financières, soit échange automatique de renseignements. La ministre des Finances a également exprimé l'importance de la coopération mondiale pour lutter contre la fraude fiscale. Est également présent au sommet conjoint FMI Indonésie, le deuxième ministre malais des Finances, Datuk Johari bin Abdul Ghani, le vice-premier ministre et ministre de la Stratégie et des Finances de la Corée Sud, Yoo Il-ho, le ministre principal de la Loi et des Finances de Singapour, Indranee Rajah, le membre du Parlement et l'ancien député de vice-premier ministre de l'Australie, Wayne Swan, plusieurs hauts fonctionnaires des pays d'Asie, ainsi que des experts fiscaux internationaux. La conférence conjointe de haut niveau de FMI Indonésie est un forum pour les décideurs pour discuter des questions liées à la mobilisation des ressources nationales, sur mobilisation des ressources intérieures, en renforçant le système fiscal, l'érosion de la base et le plan d'action de changement de profit, les chances d'information automatiquement et des incitations fiscales. Cette conférence est également la partie d'une série d'activités pour célébrer la mise en œuvre de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale en 2018 qui se tiendra en Indonésie en octobre 2018. Chers amis, c'était la mise au point.
Le président Joko Widodo a confirmé que l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lors de la réunion nationale des ulémas à Jakarta jeudi. Le président a déclaré qu'actuellement, la nation indonésienne est un modèle pour d'autres nations dans le monde grâce à son succès dans la question de la pluralité. Selon le président, sa fierté est le résultat de conseils enseignés par des ulémas dans l'enseignement de l'islam qui fournit la bénédiction pour l'univers au Rahmatan lil Alamin. En outre, selon le président, les ulémas ont également réussi à l'enseigner aux musulmans afin que le conseil puisse être mis en œuvre dans la vie de la nation et de l'État. Le président Joko Widodo a également mentionné que les conseils des ulémas ont également réussi à réaliser un islam modéré et poli, pas un islam radical, parce que selon le président, l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita.
La direction des ulémas nous a amenés à vivre en pays et à s'unir dans la diversité des conseils pour la réalisation d'un islam modéré, pas un islam difficile, pas un islam radical. L'islam radical n'est pas l'islam du conseil indonésien d'ulema. L'islam radical n'est pas l'islam de l'Indonésie.
Islam yang radical bukan islamnya bangsa Indonesia.
En outre, le président Joko Widodo a également déclaré que Pancasila comme l'idéologie de la nation indonésienne ne pouvait pas être contestée et ne peut pas être séparée de l'islam. Ceci est montré dans le premier principe de Pancasila qui reconnaît et respecte les valeurs divines et plein de valeurs religieuses. À cette occasion, le président a également invité tous les musulmans à revenir à l'esprit de la coopération dans tous les aspects de la vie, afin de réaliser une Indonésie souveraine, juste et prospère. Le ministère des Affaires étrangères a organisé un colloque de 50 ans de l'ASEAN avec le thème « La centralité et l'unité de l'ASEAN » au ministère des Affaires étrangères le 13 et 14 juillet 2017. Cet événement se concentre sur la discussion des questions récentes sur la base des trois piliers de l'ASEAN, à savoir la politique et la sécurité, l'économie et sociale-culturelle. Le colloque pourrait devenir un moyen d'échanger des idées et des points de vue sur les progrès et les réalisations de l'ASEAN à l'avenir en impliquant diverses parties prenantes du gouvernement, des hommes d'affaires et des universitaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Aïm Fahir, a déclaré aux médias à Jakarta récemment ce colloque était l'une des formes de la célébration des 50 ans de l'ASEAN. La commémoration des 50 ans de l'ASEAN n'est pas seulement marquée les yeux de l'âge, mais aussi la preuve de la contribution de l'ASEAN pour le pays et la stabilité dans la région. Au cours des 50 années de la fondation de l'ASEAN, il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans divers domaines.
Keberhasilan kita sejauh
notre
ini
notre succès en 50 ans peut-être-vous tant en termes de sécurité et de la stabilité, le progrès économique et en termes d'interaction plus étroite entre toutes les parties prenantes. Parce que dès le début, nous priorisons le dialogue, la solidarité par notre consensus et également l'inclusion. Sur la session du pilier économique, la discussion se concentre sur les progrès, les défis et la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN et les perspectives de coopération entre l'ASEAN et le partenariat compréhensif régional. Lors de la prochaine session, on a discuté des piliers socioculturels avec le thème l'identité de l'ASEAN, les travailleurs migrants, la société sans drogue et l'intégration du genre. Alors que dans la dernière session, à savoir les piliers politiques et de sécurité, on a discuté du plan de la sécurité régionale, la médecine méridionale et la sécurité maritime. Cette activité présente les haut-parleurs de 10 pays membres de l'ASEAN, les experts et les institutions de recherche, le secrétariat de l'ASEAN et l'Université de la Défense. Les résultats des activités seront rassemblés dans un livre qui sera présenté lors de la réunion ministérielle de l'ASEAN. Ainsi se commémorer les 50 ans de l'ASEAN à Manille, aux Philippines, en août 2017. Le président du Conseil indonésien des ulémas, Kiai Haji Ma'ruf Amin, récemment à Jakarta, a déclaré que le dialogue et le dhikr étaient des efforts qui peuvent être faits pour maintenir l'intégrité nationale. Dans son discours lors de la rencontre nationale des ulémas du groupe de dhikr Hubul Waton, Ma'ruf Amin a déclaré que la nation indonésienne a été formée sur la base de l'accord de tous les citoyens pour promettre de maintenir l'unité de l'Indonésie. Selon lui, l'unité de la nation indonésienne est perturbée par l'existence des groupes radicaux qui veulent séparer l'Indonésie. Par conséquent, il a souligné l'importance du dialogue et du dhikr pour maintenir l'unité nationale. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'unir la nation par des institutions que nous possédons, à savoir les institutions de l'État, les institutions sociales et les institutions religieuses. Le groupe de dhikr Hubul Waton est un lieu pour faire cet effort par deux choses. Tout d'abord, les dialogues nationaux et aussi par le dhikr ou les prières et la prière de masse. Kiai Haji Ma'ruf Amin a ajouté l'importance du rôle d'ulema dans le maintien de l'intégrité nationale. Selon lui, les ulémas ont une grande responsabilité non seulement pour garder la religion et la personne, mais aussi pour garder l'État et la nation. Par conséquent, selon lui, les ulémas devraient prendre l'initiative lorsque le pays éprouve la désintégrer. Il a également exprimé son admiration pour le premier président d'Indonésie Sukarno, qui a pu formuler Pancasila comme une forme unificatrice de la nation ou le milieu de pluralisme. Environ 700 ulémas du groupe de dhikr Hubul Waton ont assisté à la réunion nationale. Les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs illégaux qui sont entrés en Indonésie à travers des projets de construction d'investissements étrangers, ont été les vedettes. Cela est supposé de ne pas donner de bénéfices parce qu'il ferme les possibilités d'emploi pour les travailleurs locaux. Il a été dit par le chercheur du Centre pour la recherche démographique de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, défi assiaté après la conférence de presse aux médias sur les travailleurs illégaux à Jakarta jeudi. Selon elle, il y a beaucoup de problèmes des travailleurs étrangers en Indonésie, à savoir la forte intensité de l'utilisation des travailleurs étrangers dans le projet d'investissement chinois. Au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation significative des travailleurs chinois de 873 travailleurs en 2015 et de 4236 travailleurs en 2016. Défi a déclaré, même si le nombre exact des travailleurs chinois n'est pas clair, la détection des travailleurs illégaux chinois dans de nombreuses provinces comme en Java de l'Ouest et à l'Est de Java, à Kalimantan Central, au Sud-Est de Sulawesi et dans d'autres provinces indique que l'existence de travailleurs illégaux chinois s'est répandue dans de nombreuses provinces. Défi a demandé au gouvernement d'ajouter le nombre de superviseurs.
Nous connaissons les bureaux de l'immigration, les ministères, la main d'œuvre et la femme gardée pour surveiller les travailleurs étrangers en Indonésie. Le nombre et l'engagement du personnel de surveillance doivent être améliorés. Le manque de superviseurs est l'un des obstacles pour surveiller les travailleurs étrangers. Pendant ce temps, le chef de la sous-direction de la surveillance du ministère de la main d'œuvre, Rihat Purba, a déclaré que le gouvernement continuera à surveiller l'existence de travailleurs étrangers en Indonésie. Si le gouvernement a détecté des travailleurs illégaux, le gouvernement les attrapera et les expulsera dans le pays. Le dernier, le président Joko Widodo a reçu le ministre de l'Économie, de l'Éducation et de la Recherche de la Suisse, Johan Enschneider Amman, et le délégué au palais de Bogor vendredi. L'arrivée du ministre Johan en tant également l'ancien président de la Suisse et le délégué a été accueillie par le président Joko Widodo. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung, après la réunion, a déclaré que l'arrivée du ministre Johan en Indonésie vise à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'enseignement professionnel. La Suisse est un pays très potentiel pour l'Indonésie. Ce qui est le plus évident est la coopération bilatérale en 3 ans a augmenté près de 283% et beaucoup d'entreprises suisses en Indonésie qui sont excellentes dans leur domaine. Il a dit lors d'une réunion avec le président, le ministre Johan offre à l'Indonésie pour le suivi de la coopération, en particulier dans le domaine de l'enseignement professionnel, les écoles polytechniques, etc. Pendant ce temps, le ministre de Coordination économique Darmin Nasution a ajouté que dans le domaine de la formation professionnelle, la Suisse et l'Allemagne sont les pays les plus avancés dans le monde.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Ce sont toujours des effets frais qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Pesona Indonesia ou Merveilles d'Indonésie. Et cette fois, nous allons présenter un plat de Jangan, le Roban, en provenance de Banyuwangi, Javaès. Outre via les zones courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions via www.voi.co.id. Voyager aux beaux endroits en Indonésie n'est pas complet si vous ne goûtez pas spécialités culinaires locales. Comme par exemple, si vous voyagez à Banyuwangi, Javaès, il faut absolument goûter les spécialités culinaires de la société de Using de Banyuwangi, telles que sogo tempong ou le riz de tempong, le rujak soto, le pecel pitik et le jangan le roban. Le jangan le roban est une sorte de soupe et aujourd'hui n'est pas facile à trouver ce plat typique de l'ethnie d'Using parce que sa fabrication est compliquée et prend patience. Pour cuisiner le jangan le roban coïncide habituellement avec la fabrication d'huile de noix de coco vierge que l'on appelle l'huile de clantic. Le lait de coco pur sera chauffé jusqu'à ce qu'il soit sorti l'huile. Une partie de l'huile et les déchets est ensuite retirée à filtrer. La partie de l'eau ayant pris la poudre et l'huile est utilisée comme matière première de jangan le roban. En outre, ce plat a besoin d'une variété de légumes et plus fréquente, la jeune fleur de banane plantain ou appelée ontong, le feuille de fougère et le feuille de singkil. Pour cuisiner le jangan le roban, on n'utilise pas de ces saumons spéciaux. Seulement ajouter un morceau de galanga, la citronnelle, le petit piment, le sucre et le sel dans les eaux restant la production de l'huile de clantic. Et il n'a pas besoin d'utiliser l'oignon ou l'ail, mais il faut ajouter la feuille de singkil. Il est un arôme culinaire de jangan le roban. Sa fonction est similaire avec la feuille de laurier. La forme des feuilles de singkil est comme la forme des feuilles de betel et pousse de façon sauvage à Banyuwangi. Après tout laisser seulement est complet, tous les légumes sont coupés en morceaux et ensuite mis dans les eaux du reste de la fabrication de l'huile de noix de coco et puis cuit jusqu'à ce que les légumes cuit. La couleur du bouillon de jangan le roban est blanche et pas trop épaisse car elle n'utilise pas le lait de coco. Le goût savoureux de noix de coco est encore très dominant. Cette cuisine est plus délicieuse lorsqu'elle est servie avec du riz chaud et un plat de poisson aux épices. Et aussi le tofu. Vous pouvez profiter de jangan le roban dans la maison de la société Using, entre autres dans le village de Licin, Banyuwangi, Javaès. Jérémy, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous vous présentons l'information sur le Festival d'art Yogyakarta 2017. Le Festival d'art Yogyakarta est l'un des événements organisés régulièrement chaque année par le gouvernement de Yogyakarta.
Le festival se déroule habituellement entre le mois de juin à août, coïncidant avec les vacances scolaires de pointe en Indonésie. Pour la 29e fois, cet événement artistique annuel spectaculaire aura lieu de 27 juillet à 13 août 2017 à Planète Pyramide Sewon, Bantul, Yogyakarta. Des dizaines de spectacles d'art et de la variété culinaire traditionnelle indonésienne d'alléchante sont prêts à choyer les jeux et le goût des touristes. Il y a une série d'événements dans le Festival d'art Yogyakarta, entre autres, une discussion d'art par des conférenciers, des artistes connus et le cinéma du Festival d'art Yogyakarta qui a eu lieu dans une zone ouverte à l'étape sur l'écran et avec des tapis à regarder. Il y a aussi des ateliers d'art qui sont généralement réservés aux enfants et l'exposition des jeunes artistes qui sont spécialement conçus pour accueillir les nouveaux talents dans le monde de l'art. L'événement le plus attendu par la société est les spectacles en direct sur la grande scène et une petite scène. Il y a des musiciens, groupes vocaux, danseurs, jusqu'à ce que les auteurs d'art extrême. Les représentations débutent généralement l'après-midi jusqu'au soir. Enfin, il y a le marché de l'art qui va choyer ses clients avec un stand de souvenirs, des vêtements et de la nourriture et des boissons uniques. Le Festival d'art Yogyakarta commence habituellement avec la parade des groupes artistiques communautaires des artistes, des groupes d'art traditionnels et modernes et les étudiants. En plus de préserver les arts locaux, ce festival comprenait également l'art des autres régions, tels que les arts de Kalimantan Central et Sumatra Sud. Sur le thème Umbar, la mise en œuvre du Festival d'art Yogyakarta en 2017 est souhaitée d'être l'espace pour exprimer l'idée de bricoler pour tous ceux qui contribuent à ce festival, comme les artistes, désignés, créateurs de l'événement ou le marché de l'art. De plus, ce festival devrait également être un espace pour les gens à soulager momentanément la fatigue, la fraîcheur et de l'âme et une nouvelle créativité lors de la lecture dans ce festival. Umbar lui-même, dans le langage Java, a deux significations. Tout d'abord, une activité de repos et jouer. La deuxième, le moyen d'exprimer des idées et de créativité au total. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant diversement avec le magazine musical indonésien qui va vous plaire.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs, on va présenter maintenant le programme musical de la voix d'Indonésie diffusée du Jakarta avec moi, Yubi Suryanto. Ce soir, nous vous présentons un groupe musique pop appelé 420. Voici la première chanson intitulée « La poète de la nature ».
Thank you. lupakan lelah tubuh. Di tempat tinggi tak berpenghuni, lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu. Mimpiku berada di tempat indah yang tak terjamah. Hanya adaku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Bahagia, bagi aku cukup sederhana. Tak terhingga sekalipun harta dan tahta. Tak sanggup membayarnya.
Ces amis, il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150. 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.